Alors aujourd'hui, on va lire quatre textes dans la parole de Dieu. Et le premier se trouve dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors, Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. » Le deuxième texte se trouve dans Matthieu, au chapitre 18, versets 12 à 22. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarées. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le passage suivant se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 6, les versets 1 à 8. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Et le dernier passage se trouve dans Galates, au chapitre 6, versets 1 à 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ.
C'est une joie de pouvoir à nouveau ouvrir la parole de Dieu ensemble, de voir qu'est-ce qu'elle nous révèle. Et c'est vrai, pour moi, ce matin, c'est une joie toute particulière de à nouveau tourner nos regards vers l'Évangile. On va à nouveau parler de l'Évangile parce que nous sommes en train de parler de ces artisans de paix. Mais juste avant, il est important de nous rappeler une chose, c'est que quand le printemps arrive, on voit les feuilles qui sortent de leurs bourgeons, ou même maintenant, on voit les épis qui sont mûrs pour être moissonnés. Mais pour que ces bourgeons sortent, pour que ces épis soient mûrs, il faut qu'il y ait de la nourriture qui arrive, qu'il y ait la sève pour les arbres. Et de même, ce matin, on peut dire que les feuilles de notre compréhension, pour qu'elles puissent éclore dans notre cœur, doivent être éclairées par le Saint-Esprit. Et c'est donc sur l'Esprit Saint que nous comptons ce matin pour comprendre la parole de Dieu. Alors maintenant, je vais faire appel à votre mémoire. Oula, déjà. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, que je vous ai parlé ici, c'était le 5 mai. Donc ça date un tout petit peu. Il y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts. Et nous avons parlé le 5 mai de la deuxième partie des artisans de paix. Ou est-ce que quelqu'un se souvient ? Ça fait réfléchir un petit peu, hein ? Alors, je vais vous aider, bien entendu. Donc, on avait parlé ensemble du deuxième E. Vous vous souvenez, il y a plusieurs E. Hein, on a vu qu'il y a cinq E. Il y a un E fondamental, c'est l'Évangile, on y revient. Ou le premier E, le premier réflexe, eh ben, ça on l'avait vu encore avant le 5 mai. Le 5 mai, on avait vu le deuxième E qui était « enlever la poutre de son œil ». Hein, c'était avec Matthieu 7, 5, où nous avions vu ce texte qui nous dit « hypocrite ». Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mais avant, un premier réflexe qui était une attitude qu'on est appelé à avoir, celle d'exalter Dieu dans toutes nos circonstances, particulièrement dans les circonstances qui sont parfois plus difficiles. Quand c'est facile, dans la vie, c'est plus facile de louer Dieu, c'est vrai, mais même dans les situations difficiles, de chercher à le glorifier. Et là, on avait vu un verset qui était affiché ici, hein, durant toute la prédication, qui disait « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quoi que vous fassiez, donc ça englobe tout, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et avant de voir ce troisième acte de l'artisan de paix que nous allons voir aujourd'hui, souvenons-nous vraiment, et c'est vraiment important, que tout est basé sur l'Évangile, basé, motivé, stimulé, ancré, on peut dire enraciné dans l'Évangile de Christ. Il n'est pas possible d'être un artisan de paix sans connaître l'Évangile. C'est impossible. C'est impossible. Parce que si nous n'avons pas l'Évangile, nous ne connaissons pas la paix. La paix, elle est en Dieu, elle est en Christ, et c'est lui qui la donne. Sans l'Évangile, nous n'avons aucune garantie de pardon lorsque nous vivons cette seconde action d'enlever la poutre. Souvenez, enlever la poutre, c'est pas juste on va chercher une tronçonneuse, hein. C'est en fait aller dans son cœur où il y a la racine de la poutre pour confesser son péché. Hein. Et l'Évangile, en fait, nous explique que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Donc en connaissant l'Évangile, on va être à même de vivre cette confession. Sans Évangile, nous n'avons aucune motivation à chercher à glorifier Dieu non plus. Pourquoi glorifier Dieu ? Pourquoi le ferions-nous ? Mais avec l'Évangile, on se rend compte, parce que c'est très riche l'Évangile, hein, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. Nous sommes des frères du prince de la paix. Et en fait, de vivre cela, de comprendre tout ce que l'Évangile est pour nous, tout ce que nous avons reçu, la chose qui, quelque part, que nous pouvons faire en retour, c'est de le glorifier. Nous avons envie de glorifier ce Dieu qui nous a tant donné. Et aujourd'hui, nous allons encore, pour le troisième acte de l'artisan de paix, nous baser sur l'Évangile, qui est vraiment essentiel. Dès le moment où nous montrons la faute à quelqu'un, eh bien, c'est toujours pour qu'il puisse être pardonné et vivre la liberté que l'Évangile procure. C'est essentiel. Si on n'a pas l'Évangile dans notre cœur et dans notre tête lorsque nous reprenons quelqu'un, nous allons devoir enlever une poutre que nous sommes en train de mettre en place. Non, quand on reprend, eh bien c'est pour que la personne puisse vivre l'Évangile. Ce n'est pas pour assouvir une vengeance ou pour faire justice nous-mêmes. Non, c'est pour faire grandir dans la foi, hein, et dans la joie de connaître l'Évangile libérateur. Alors, une phrase que vous pouvez prendre avec vous, que je vais aussi encore reprendre par la suite, mais qui est peut-être un peu mnémotechnique, qui aide à savoir comment s'approcher de quelqu'un quand on veut le reprendre pour un péché, hein, c'est: on va s'approcher de lui non pas avec un bâton, mais avec le pardon. Ça, c'est un élément important. On ne s'approche pas avec un bâton, on s'approche avec le pardon. Donc le troisième acte de l'artisan de paix, je ne vais pas répéter tous les éléments qu'on a vus sur la confession, la repentance, la notion du péché dans notre cœur, je le prends comme acquis. Nous allons maintenant voir comment en parler à l'autre personne, comment reprendre l'autre personne. Donc le troisième acte de l'artisan de paix, édifier dans la douceur. Et c'est le texte de Galates 6, 1 qui va nous accompagner durant toute la prédication. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc ça, c'est le texte qui va nous imprégner et duquel on sera encouragé à être inspiré lorsque nous allons reprendre quelqu'un. Mais comme vous aimez les histoires, c'est juste, hein? Moi, j'aime beaucoup les histoires, mais je sais que beaucoup de monde aime les histoires. Et comme j'ai maintenant l'habitude de le faire au début de ces prédications, on va lire une histoire. On va écouter une histoire qui va illustrer donc le propos de ce matin. Cette histoire se déroule à l'école. Voilà, on est dans le cadre d'une école avec des profs. Donc les profs qui sont ici se reconnaîtront peut-être, les autres imagineront. Alors, on parle de Jeannette et de Louis. Voilà les deux personnes. Jeannette patienta jusqu'à ce que tous les étudiants de Louis passent la porte. Lorsqu'elle vit qu'il avait fini son travail et qu'il avait mis ses papiers dans sa sacoche, elle entra avec désinvolture dans la salle de classe. Lui lança un petit sourire et lui demanda « Louis, as-tu quelques minutes? J'ai à te parler. » Louis souleva les yeux, plein de suspicion, et dit « Je suis assez occupé pour l'instant. De quoi veux-tu parler ?»« J'aimerais te demander pardon de la manière dont je t'ai parlé la semaine dernière et qu'on parle de notre relation. Mais si ce n'est pas le moment, je reviendrai plus tard. » Son regard surpris, donc à Louis, démontra que ce n'était pas ce qu'il attendait de la part de Jeannette. Alors il dit « Non, c'est bon, j'ai quelques minutes. Merci. Bon, comme je te l'ai dit, je dois te demander pardon pour ce que j'ai dit dans la salle de professeur mercredi dernier, lorsque tu t'es moqué de moi en face de Steve et de Jocelyne. J'ai perdu mon sang-froid et je me suis lâché, j'ai eu tort. Et je suis sûr d'être avoir embarrassé. Veux-tu me pardonner ?» Surpris par son intégrité, la seule chose qu'il a répondu fut « Ouais, c'est bon, je sais que je peux être un peu dur parfois, oublions tout ça. » Oublier peut prendre assez longtemps, je préfère que tu me dises que tu me pardonnes. Bien sûr, comme tu veux, je te pardonne, oublions cette affaire. Jeannette avait préparé en fait cette conversation depuis des jours avec l'aide d'un conseiller dans son église et ils avaient anticipé le fait que Louis puisse mettre d'un coup leurs différents côtés. Donc, ils avaient planifié une stratégie pour que la conversation puisse se poursuivre. Alors, Jeannette mit ce plan à exécution. Et elle lui dit « Puisque je me suis emporté en face de Steve et Jocelyne, je veux que tu saches que je vais aller les voir pour leur dire que j'ai eu tort. Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse faire pour que tout rentre dans l'ordre entre nous? Y a-t-il quelque chose d'autre qui t'ait offensé ?»« Non, » répondit-il, « rien que je me souvienne. » Peut-être. Peux-tu m'aider à comprendre quelque chose? Si je ne t'ai rien fait qui t'ait offensé, pourquoi as-tu dit de telles choses sur moi devant les autres? Ah, mais c'était juste pour rire! Tu sais pas rigoler? Peut-être que tu n'avais pas l'intention de me blesser, mais ça ne ressemblait pas à une blague, Louis. C'est très embarrassant de rire de moi en face de ceux avec qui je travaille tous les jours. En plus, je ne pense pas qu'ils aient trouvé ça très marrant. Et je ne pense pas que je suis le seul à ne pas aller à la salle des professeurs afin d'éviter tes blagues.
Oh, ben voilà, maintenant je suis le grand méchant loup, répondit-il avec sarcasme. Et les petits cochons doivent aller se cacher dans la maison.
C'est pas ce que je veux dire, Louis. Tu as la mauvaise manie d'appeler les gens par des noms et les humilier. Ce n'est pas un bon exemple pour les élèves. Et je suis désolé de te dire que le staff se moque de ta foi derrière ton dos. Sais-tu ce qu'ils disent ?
Louis ne voulait pas savoir, vraiment, mais il dit quoi ?
Ils disent que tu es un hypocrite, Louis. Ils n'arrivent pas à comprendre le fait que tu sois chrétien et que tu critiques tout le temps.
Louis s'humilia aux paroles de Jeannette. Et il chercha un moyen de finir la conversation. Mais avant qu'il ne puisse parler, Jeannette lui dit avec douceur.
Je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Je crois que tu veux un témoignage positif. Mais il me semble que tu es piégé dans une habitude de dire des méchancetés aux autres. J'ai lutté avec le même problème, Louis. J'ai blessé tellement de monde par mes paroles. Demande juste à ma famille. Mais...
Ah, il y a des mecs qui sont fantastiques. On a vu la dernière fois qu'il y a des mecs qu'il faut oublier, mais il y a des mecs fantastiques.
Mais Dieu est si compatissant. Mais Dieu est si compatissant. Il ne nous traite pas comme nous le méritons. Et il veut nous délivrer de nos mauvaises habitudes. Il ne veut pas que nous nous fâchions. Il serait si content que nous nous pardonnions et que nous travaillions à ce que nos relations et notre témoignage s'améliorent ici. Personne ne s'était approché de Louis de cette manière de toute sa vie. La vérité dans les paroles de Jeannette l'ont piqué au vif, mais le ton de sa voix et le rappel du pardon de Dieu permit une lueur d'espoir. Il s'assit dans sa chaise et soupira de lassitude et de regret. « Je ne mérite pas ton pardon, dit-il. Je t'ai raillé toute l'année, comme tout le monde. J'ai toujours utilisé le sarcasme quand je ne sais pas comment me tenir avec quelqu'un. » Je reviens à la maison chaque soir sachant que j'ai échoué, mais je ne sais pas comment changer. Y a-t-il de l'espoir pour un pauvre type comme moi ?
Bien sûr qu'il y en a, répondit Jeannette en s'asseyant en face de son bureau.
Si Dieu m'aide à garder ma langue, il peut aider n'importe qui. Prions et demandons à Dieu de nous montrer comment nous pouvons, de nos différents passés, amener une opportunité pour démontrer la puissance de Dieu dans nos vies.
Et là, il y a eu toute une notion de réconciliation qui était visible de tous.
C'est un témoignage puissant de l'œuvre de l'Évangile dans les cœurs. N'oublions pas ce texte que nous avons, qui est disparu, mais qui va peut-être revenir, de Galates 6, 1, mais que vous avez en tête, ou perdre sur vos Bibles. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Alors Ken Sandy, donc le livre sur lequel aussi je m'appuie pour la structure, pour ses prédications, dit ceci, je suis d'accord avec lui. L'une des façons les plus difficiles à servir les autres au milieu d'un conflit est de les aider à voir où ils ont eu tort et comment ils doivent changer. C'est difficile de montrer à l'autre, d'une manière biblique, selon l'Évangile. C'est facile d'une manière de notre vengeance, mais ça va rien changer, ça va pas aider. C'est pourquoi cette démarche demande de l'humilité, si je puis dire, et encore plus de dépendance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jeannette ici, dans cette histoire qu'on vient d'entendre tout à l'heure ? Ça sera nos trois points, on va juste un peu le revisiter. La première chose, c'est qu'elle a préservé la relation. Jeannette n'a pas attendu d'être dans la salle des maîtres quand tous les autres collègues étaient là pour dire à son collègue « C'est pas bien ce que t'as fait ». Non, elle a pris du temps pour le trouver seule. Elle a cherché à savoir aussi s'il avait quelque chose contre elle et elle a exprimé le désir de garder et de grandir dans cette relation avec lui. Deuxièmement, elle lui a fait bénéficier de l'Évangile. C'était son objectif, c'est qu'il puisse bénéficier de l'Évangile. Elle lui a parlé avec douceur, lui expliquant que Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. Oh, heureusement que Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il veut nous délivrer de nos habitudes et elle l'a fait avec sagesse. Et troisièmement, eh bien, elle l'a corrigé avec douceur. Elle n'a pas eu besoin de prendre une autre personne pour aider Louis à comprendre son péché et s'en repentir. Bien que parfois, c'est important de prendre d'autres personnes, c'est vrai, on le verra. On va donc visiter ces trois points avec la parole de Dieu en main. puisque c'est elle qui nous conduit, c'est la Bible qui nous conduit. Et afin de préserver les relations, c'est Matthieu 18 qui nous explique comment préserver les relations. Vous pouvez regarder dans vos Bibles, Matthieu 18, un texte que Jésus a donné à ses disciples pour justement gérer les relations et les situations plus difficiles. Matthieu 18 nous dit ceci au verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Afin de bien comprendre l'attitude que, et l'esprit que Jésus demande lorsqu'il dit cette phrase, on se rappelle que cette phrase ici suit directement une parabole. C'est pour ça qu'on l'a lue tout à l'heure. Cette parabole de ce berger qui prend soin de son troupeau. Et il a disparu, donc il met son troupeau bien en sécurité et il va la chercher. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne prend pas tout le troupeau avec lui, vous avez remarqué? Il ne prend pas tout le troupeau avec lui, il va vers la brebis qui est perdue, il dit « Dis donc, t'es perdu !» Et puis il rentre à la maison. Il n'a pas fait ça. Il est allé la chercher seul et il ne l'a pas laissée là. Il l'a ramenée. Et c'est ça notre objectif. Si nous reprenons un frère qui a péché, ce n'est pas pour lui dire qu'il a péché. C'est pour le ramener. C'est pour qu'il puisse vivre l'Évangile. D'ailleurs, Jésus, après avoir expliqué comment gérer cette situation, parle d'une autre parabole. On ne l'a pas lu, mais c'était suite à la question de Pierre. Combien de fois je dois pardonner? Jésus là parle d'un Dieu de grâce qui pardonne de manière extraordinaire des milliards de francs qu'il devait à cet homme. Qui pardonne à cet homme. Et ce serviteur, malheureusement, n'a pas compris le pardon. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Donc Jésus nous enseigne comment pardonner. Ça signifie que lorsque notre frère a péché, on va le reprendre en ayant avec nous, qu'est-ce qu'on a avec nous? Le bâton? Non, le pardon, exactement. Donc c'est vraiment une notion très importante. Et une première situation nous est donnée dans la parole de Dieu, Matthieu 5. Matthieu 5 est un texte qui me fait beaucoup réfléchir et qui nous engage beaucoup. Matthieu 5, 23-24, qui nous dit ceci. On écoute bien ce qui est écrit, parce que souvent on l'entend juste, puis on l'interprète un petit peu. Mais il est dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est pas que toi tu as quelque chose contre ton frère. Que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et voici ce qui peut arriver si nous vivons cela. Trois choses. Souvent, en allant vers l'autre, qui a quelque chose contre nous, eh bien, nous pouvons lui faire comprendre simplement que ce qu'il avait contre nous, c'était un malentendu. Et très souvent, c'est des malentendus. Puis si on en parle, c'est réglé. Ou bien, deuxièmement, il peut arriver que ce frère va nous révéler un péché dans notre vie. Il va nous dire, oui, j'ai quelque chose contre toi, parce que... Puis il nous révèle quelque chose, dit... Oh! Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vivre, enlever la poudre de son œil. Je ne vais pas refaire toute la prédication, écoutez-la, elle vous aidera à progresser dans ce domaine-là. Et vivre cette confession. Et troisièmement, s'il n'y a rien de notre part, et que cette personne nous en veut, et que ça ne peut pas être réglé de cette manière par un malentendu, eh bien, nous sommes appelés aussi à la reprendre avec douceur et à l'aider à voir où est son erreur. Et j'aimerais vous parler ici de l'histoire d'un homme qui a entendu un message de Matthieu, justement 5, 23 à 24, qui a été touché. Ce jour-là, il a entendu ce message, puis il s'est dit, mais j'ai un voisin avec qui je n'ai plus parlé depuis 20 ans. Ça fait pas mal de temps quand même. Depuis 2 ans, pardon, pas 20 ans. 2 ans, c'est déjà pas mal aussi. 2 ans, pas parler avec son voisin. Et il s'est dit, il faut que j'aille le voir. Et en fait, il est allé le voir et ensuite il raconte ce qu'il a vécu. Il dit ceci, j'ai un voisin qui ne m'a pas parlé depuis 2 ans, à qui je n'ai pas parlé. Nous sommes fâchés sur la pose d'une palissade. Lorsque je n'ai pas voulu la mettre où il voulait, il m'a tourné le dos et il s'en est allé fâché. Et puisque je pensais avoir raison, j'ai pensé que c'était à lui de faire le premier pas. Vous vous souvenez de la règle 40-60 là? On a vu ça la dernière fois. Si vous vous souvenez pas, vous pouvez réécouter. Donc là, je pensais que c'est moi qui avais raison, donc c'est à lui de venir vers moi. Mais le texte de Matthieu 5, 23, 24 m'a permis de comprendre que le Seigneur voulait que ce soit moi qui aille vers lui et qui recherche la réconciliation. Donc, après l'église, je suis allé vers mon voisin pour lui parler. Je lui ai dit que j'étais désolé de m'être comporté avec autant d'entêtement il y a 2 ans et que je voulais à nouveau être ami avec lui. Et là, ce qui s'est passé, c'est que mon voisin est presque tombé à la renverse. Il a dit, mais qui se sentait mal depuis que cet incident s'était passé, mais qui ne savait pas comment venir en parler. Et qu'il était tellement content que cet homme était venu lui parler. C'est vrai que toutes les histoires ne se finissent pas si rapidement. Mais il y en a quand même beaucoup qui peuvent se finir si rapidement. Mais toutes ne se finissent peut-être pas si rapidement, mais il y a toujours, toujours l'espoir de la réconciliation, car Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu et avec les autres. Nous avons déjà parlé la dernière fois aussi de passer sur l'offense. Il est vrai qu'il n'est pas facile de savoir quand il faut reprendre son frère ou quand il faut passer par-dessus l'offense. Il y a des offenses, il faut simplement passer par-dessus. Il y a des offenses où c'est notre problème, parce que c'est nous qui sommes hypersensibles. Ça, c'est notre poutre. Mais il y a des choses qui sont banales, peut-être qu'il a dit quelque chose qui nous a un petit peu fait mal, dit bon, d'accord, on passe par-dessus. Mais passer par-dessus, c'est avec le vrai pardon. C'est pas juste dire j'oublie et puis ça reviendra la prochaine fois qu'il fait quelque chose. D'accord ? Mais comment savoir s'il faut passer par-dessus cette offense ? Je veux dire que si c'est pas clair, s'il faut passer par-dessus cette offense, si c'est pas clair, parce que des fois c'est clair, il faut en parler, c'est clair. Ou bien parfois c'est clair, il faut passer par-dessus, c'est une petite chose. Si c'est pas clair, il vaut mieux passer une fois de trop sur une offense. Parce que si elle revient, là vous saurez qu'il faut en parler. C'est mieux une fois de trop, parce que comme ça, on évite tout plein d'énergie pour des conflits. Parce que c'est entrer dans un conflit ensuite d'aller reprendre. Et pourquoi on ferait ça? C'est parce que Dieu fait de même envers nous. Il est miséricordieux. Mais cette notion, on va la vivre sans oublier ce que nous dit l'Évangile, ce que nous dit Jésus-Christ dans Luc 17, au verset 3. Il a dit, si ton frère a péché, reprends-le. C'est pas se dire, moi je m'en fous, comment les autres vivent. C'est pas vrai. Jésus nous dit pas ça. Il nous dit, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Souvenez, pardon, pardonne-lui. Alors nous agirons si cela déshonore Dieu. Le péché est si visible qu'il affecte manifestement et significativement le témoignage chrétien. Par exemple, quelqu'un qui vit dans un adultère, et vous le savez, qui dit qu'il est chrétien, vous ne pouvez pas rien dire. Ce n'est pas juste de rien dire. Mais bien sûr, cela seul, etc., selon ce que Dieu nous enseigne. Nous agirons aussi si cela entache nos relations, soit une offense grave ou une erreur répétitive, une erreur qui revient. À un moment donné, il faut dire, attends, je veux bien passer par-dessus, mais à un moment donné, mon frère, il a besoin d'arrêter. Il se fait du mal à lui-même. Nous agirons aussi si cela agresse les autres, par exemple, blesse les autres, par exemple, même une agression. Il ne faut pas rester muet. C'est important, là, de réagir. Nous agirons même lorsqu'une personne se blesse elle-même, se détruit. Adoptons pas la perspective du monde qui dit que chacun fait ce qu'il a envie puis on s'en fout de ce que l'autre vit. C'est pas vrai, c'est pas biblique. Si Dieu nous a placés dans l'église les uns à côté des autres, c'est pour notre sanctification. S'il a placé Laurent à côté de moi à l'église, c'est pour ma sanctification. Vous comprenez? C'est un élément très important. Mais dans toutes les fois où nous agissons nous allons vers quelqu'un pour le reprendre, soyons motivés par des passages bibliques, tels bien sûr que Galates 6, 1, ou même Jacques 5, 19 et 20. Regardez Jacques 5, 19 et 20. Et c'est un texte qu'il est bon d'avoir en tête si nous voulons reprendre quelqu'un dans son péché. Où il a dit ceci. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur dans la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Notre objectif lorsqu'on reprend quelqu'un, c'est pas de lui montrer sa faute, c'est pas de lui faire payer. C'est qu'il soit pardonné, c'est qu'il soit libéré. Et c'est vrai qu'il s'agit chaque fois d'aller avec prudence, d'y aller peut-être même plusieurs fois. Il est intéressant de voir que dans Matthieu 18, qu'on a lu tout à l'heure, quand Jésus dit « si ton frère a péché, va vers lui », le verbe grec utilisé, le temps utilisé dans ce texte, est un temps continuel. C'est pas juste ponctuel. C'est pas « va une fois », c'est « va » de manière répétitive. Pas c'est possible, ben on y va une fois, on dit les choses le plus doucement possible. Le frère l'entend, merci Seigneur. Frère l'entend pas, va à nouveau. En vivant toujours avec ces deux premiers « e » qu'on a vus, exalter Dieu et enlever notre poutre, bien entendu. Ça, c'est vraiment important. Alors, bien qu'il est préférable de passer par-dessus les péchés des autres, il est des situations où il faut parler pour stopper les mésententes. Donc, si quelqu'un a quelque chose contre nous, et si quelqu'un déshonore Dieu, ou blesse, ou se blesse, la chose la plus aimable est de lui parler. Après avoir compris que nous cherchons toujours à préserver la relation dans l'amour et la vérité, nous allons voir maintenant le deuxième point qui nous guide dans la manière. Donc on va préserver les relations. Dites-le même. Si vous allez reprendre quelqu'un dans son péché, avant de le reprendre, vous lui dites « Je veux qu'on puisse continuer une relation solide ensemble. » Et je vais te dire quelque chose qui n'est pas facile. Mais c'est important. On veut garder les relations. Et avant de débuter juste ce deuxième point sur la manière, rappelons-nous le texte qui nous accompagne aujourd'hui. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituel, ça ne veut pas dire que vous êtes mieux, mais ça veut dire que vous vivez l'Évangile et que vous désirez vivre l'Évangile. C'est ça, être spirituel. Donc comment faire? Eh bien, on va faire bénéficier de l'Évangile. Lorsque quelqu'un m'a déçu et offensé, quelle est ma tendance naturelle? C'est de m'approcher de l'autre avec la loi, en lui disant ce qu'il a fait de mal et ce qu'il devrait faire mieux. Cette approche met généralement la personne en face de moi sur la défensive, et qu'ils deviennent très réticents ensuite à admettre ses fautes, et ça fait souvent qu'empirer la situation. Le Seigneur m'enseigne par sa grâce un meilleur moyen pour parler aux autres de leurs fautes. Alors au lieu de m'approcher d'eux par la loi, j'apprends à leur apporter l'Évangile. En d'autres termes, au lieu de demeurer sur ce que les gens devraient faire ou ont raté, j'apprends à me focaliser premièrement sur ce que Dieu a fait et sur ce qu'il est en train de faire par eux en Christ ou pour eux. Et nous trouvons quelques exemples de cette approche partout dans l'Écriture. Je vous donne juste quelques exemples. Jésus face à la Samaritaine. Comment est-ce qu'il a agi face à la Samaritaine? Jésus ne s'est pas focalisé sur sa vie pécheresse, mais lui parle de salut, de la vie éternelle, de la véritable adoration, de la venue du Messie. Bien sûr qu'il n'a pas occulté, il n'a pas effacé le fait qu'elle était pécheresse, mais il n'a pas focalisé là-dessus. Ou l'apôtre Paul, il a écrit une lettre aux Corinthiens. C'est en train de suivre ses prédications avec Olivier sur les Corinthiens. Et on dit que c'est une église qui a beaucoup de problèmes. Mais comment est-ce qu'il commence sa lettre? Il commence par leur dire qu'ils sont saints. Il commence par leur dire qu'ils sont en Christ. Et il les place dans une espérance de ce que Dieu est en train de faire dans leur cœur avant de parler des situations à régler. Paul fera de même dans d'autres épîtres, dans Colossiens 1, au verset 3 par exemple, etc. Donc avant de dire ce qu'ils devraient faire, Paul leur rappelle ce qu'ils sont en Christ. C'est tellement bon de savoir qu'est-ce que nous sommes en Christ. Ça va nous stimuler ensuite à vivre d'une manière juste et vraie. Or, demandons à Dieu son aide pour ne pas accabler celui que nous reprenons, mais que la faute soit clairement montrée avec l'espérance de l'Évangile. Prions pour ça. On n'a pas du tout ça dans notre nature. Ah, moi, j'aimerais bien être délivré de ça. J'aimerais bien chaque fois que je reprends quelqu'un, chaque fois seulement avec l'Évangile. Alors bon, on s'exerce, on progresse, mais c'est vraiment important, c'est ça qu'on veut. Par exemple, lorsque nous parlons avec quelqu'un de ses commérages, nous pouvons dire « Je ne pense pas que tu aies fait exprès de blesser Bill, mais tes paroles ont endommagé sa réputation. La bonne nouvelle est que Jésus est mort pour te délivrer, ainsi que moi-même et Bill, et tous ceux qui croient en lui et de nos péchés. Dieu nous a donné un avertissement et une merveilleuse promesse. Si nous dissimulons nos péchés, il continuera à nous corriger jusqu'à ce que nous nous repentions. Mais si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera et restaurera nos relations. C'est l'espérance que nous avons à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Si tu demandes son aide et tu t'occupes de ta situation, de la manière dont ses enseignements te le montrent, cet incident sera complètement balayé. » Bon, on n'a pas forcément les mêmes mots. D'accord, Je veux dire, des fois, on a d'autres mots. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir cette même notion. Et l'élément qu'on a déjà parlé la dernière fois, que je parlerai encore la prochaine fois sûrement, mais que je le dis encore maintenant, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a payé. il a payé. Donc il n'y a pas besoin de faire payer à quelqu'un pour son péché. Christ a payé. Mais comme on l'a vu, comme on vient de le voir maintenant ici, Dieu nous corrige. Et si nous péchons et nous ne repentons pas, il continue à nous corriger parce qu'il veut que nous nous repentions et que nous grandissions dans la foi. Mais comprenez bien, c'est pas de la, vous n'êtes pas en train de payer le péché. Vous ne pourriez pas, ce n'est pas possible. Mais Christ l'a déjà fait. Mais Dieu nous corrige pour nous faire grandir. Et c'est ce qu'on doit prendre avec nous, hein, que ce soit pour reprendre quelqu'un, que ce soit dans l'éducation, que ce soit quand on entoure des personnes. Le but, ce n'est pas de faire payer. Le but, c'est de corriger pour faire grandir. C'est très différent. Et lorsque nous parlons à quelqu'un de son péché, deux choses sont importantes. Là, je ne les développerai pas ici parce que ça prend du temps, mais je vous donne quand même les deux directions qui sont très importantes. C'est être prompt à écouter. Être prompt à écouter. Bien souvent, quand on veut reprendre quelqu'un, on a ses idées sur ce que l'autre a fait. Bah, c'est peut-être important de savoir qu'est-ce que l'autre pense de ça, puis peut-être que ce que l'autre a fait, c'est différent de ce qu'on pense. Être prompt à écouter. Et ensuite, deuxièmement, parler de manière à apporter la guérison. Parler de manière à apporter la guérison. Par ces deux choses, pour ces deux choses, et bien des conseils sont donnés aussi dans le livre de l'artisan de paix. Si quelqu'un le désire, je pourrais aussi vous le mettre à disposition. Et on peut utiliser différentes choses, par exemple une image, une métaphore, une parabole pour aider la personne à comprendre son péché. Ben, on voit Nathan. Vous avez vu tout à l'heure, on a lu dans 2 Samuel ce texte. Hein, tous ces textes, on les a lus, ils sont en lien avec ce qu'on discute là. Hein? Donc Nathan, il est allé vers David, puis il devait reprendre le roi. Waouh, reprendre le roi. Vous imaginez, il va aller prendre quelqu'un qui a une autorité sur vous, même de vie ou de mort à l'époque d'ailleurs. Et il devait le reprendre sur un péché grave. Eh bien, il a utilisé là une image. David l'a tellement bien comprise qu'il était en colère contre cet homme, vous vous souvenez, hein, qui a pris cette brebis. Puis Nathan lui dit, c'est toi. Waouh. Waouh. Eh bien, David, il a compris ce que ça signifiait. Il a compris parce que par la grâce de Dieu, cette image a été utile pour lui pour entrer dans cette compréhension. Puis Nathan, il ne voulait pas simplement lui montrer le doigt puis dire, t'es un méchant. Pas du tout. Pas du tout. Il voulait lui dire, mais repens-toi, David. Et c'est ce qu'il a fait par sa grâce. Et Dieu lui a pardonné. Et Dieu ensuite aussi a travaillé dans le cœur de David, dans la vie de David, l'a corrigé pour le faire grandir. Hein, mais pas pour le faire payer. Et parmi bien d'autres conseils, on soulignerait simplement qu'il faut préparer aussi ces discussions. Quand on reprend quelqu'un, préparez-vous. Ça n'a rien d'aller, nous, je suis en colère, il m'a fait du mal, puis hop, j'y vais. Waouh! Là, c'est la meilleure chose pour justement ne pas entrer dans cette situation où on apporte le pardon. On vient avec le bâton. D'accord ? Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et nous arrivons à notre troisième point après visiter ce point de faire bénéficier de l'Évangile, c'est justement corriger dans la douceur. Nous sommes appelés à faire tous nos efforts pour résoudre les différends en privé. Et là, on peut le dire clairement ainsi, si nous puisons dans la grâce de Dieu et que nous suivons les principes qu'il nous a donnés dans l'Écriture, nous pouvons résoudre la majorité de nos conflits seul à seul. La majorité. Mais il faut le faire. Ce n'est pas juste attendre, ça ne va pas se faire tout seul. Si on attend, ben ça ne va pas se régler. Mais le faire. Hein. Dans les exceptions où les conflits, par contre, ne peuvent pas être résolus, avec toutes les tentatives possibles, avec ces trois premiers « E » qu'on connaît, avec l'Évangile, bien sûr, toujours, hein, exalter Dieu, enlever la poudre de son œil, maintenant édifier dans la douceur. Si cela seul, ça n'a pas de résultat, eh bien, il est important, avec la grâce de Dieu, de demander de l'aide et de le faire aussi avec d'autres personnes. Et là, un élément important aussi, c'est que le but, même si on le fait avec quelqu'un, sera toujours le même. C'est toujours avec le pardon, toujours. Même si la manière va changer un petit peu. Une autre notion de base doit rester en vigueur aussi, c'est que le cercle de personnes impliquées dans le conflit ou le différent, le mot conflit fait des fois peur, on peut dire différent ou la situation. Hein. Donc garder le cercle de personnes impliquées dans la situation le plus petit possible, le plus longtemps possible. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 18, 16, cette fois-ci, regardez avec moi, Matthieu 18, 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. Et avant de passer à cette étape, voici deux choses à faire. La première, c'est se rappeler de vivre pour la gloire de Dieu et être prêt même à laisser tomber certains droits. Parce que notre but, comme on a déjà dit avant, c'est pas de faire justice. Notre but, c'est que la personne puisse vivre l'Évangile. Et parfois, ça peut arriver qu'on laisse certains droits. Parfois. Et deuxièmement, chercher la négociation en ayant demandé des conseils à des personnes mûres spirituellement. Là, on a besoin d'aide. Il ne faut pas croire qu'on peut faire tout seul, on a besoin d'aide. Demandons de l'aide à des personnes qui cherchent la paix. Si la dispute ne peut être résolue en privé, Jésus demande d'impliquer d'autres personnes. Nous l'avons vu ici dans Matthieu 18, 16. Si on ne peut pas résoudre en privé, il faut demander à d'autres personnes, comme il dit dans Matthieu 18, 16. Et qui chercher ? Il faut chercher des personnes avec certains critères. C'est important. Un des critères, c'est des personnes qui veulent aussi la réconciliation. Ne cherchez pas quelqu'un qui cherche la guerre. Il ne va pas vous aider. Il ne va pas aider à résoudre la situation. Il va aider à faire que ça soit encore pire. Cherchez des personnes qui veulent aussi la réconciliation. Des artisans de paix, si vous voulez. Ensuite, des personnes qui sont capables d'être francs avec vous et avec les autres. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui sont autour de nous, ils sont très gentils, mais ils n'osent pas nous dire quand ils ne sont pas d'accord avec nous. Mais c'est pas, ça ne nous aide pas. On a besoin de personnes qui osent nous le dire, dans l'amour, bien sûr, dans la douceur, mais qui osent nous dire, écoute, là, Tim, tu t'es trompé. Merci. Au lieu de, oh, je ne veux rien lui dire, je ne veux pas y faire du mal. Puis après, ben, deux semaines après, on dit, oh, ben, quand même, il a fait tout faux. Je dis, attends, tu aurais pu me le dire. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on peut résoudre les choses. Donc, quelqu'un qui veut la paix, un artisan de paix, quelqu'un qui est capable d'être franc, puis ensuite, une personne qui est capable de comprendre le conflit. Ben, certains conflits ont trait à des éléments techniques, des éléments plus particuliers. Puis bon, on n'est pas tous appelés à tout comprendre dans la vie. Donc, ben, y a certaines personnes qui comprennent. Donc, c'est ces personnes-là qu'on va chercher aussi. Et quatrièmement, des personnes qui sont acceptées des deux parties si possible. Ça, c'est vraiment le mieux. C'est de chercher que quand il y a une situation entre deux parties, deux personnes ou deux parties, que les deux parties acceptent la personne qui vient pour justement aider. Je l'ai dit si possible. Pourquoi ? Parce que bien que l'accord mutuel de la demande des réconciliateurs soit la meilleure solution, il peut arriver qu'il n'y a pas cet accord. Il peut arriver qu'il y en a un qui veut que quelqu'un vienne intervenir et l'autre ne veut pas. Ben que faire ? Alors, si l'opposant est chrétien, c'est très clair. Dans Matthieu 18, 16, il est dit, « S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. » Matthieu 18, 16 vous autorise à demander à quelqu'un, même si l'autre ne veut pas. Ça, c'est un élément. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on suit ce que Jésus-Christ nous dit. Ce n'est pas nos idées. C'est ce que Christ nous dit. Et comment est-ce qu'on pourrait le présenter ? On pourrait dire, ben, par exemple, « Ouais, Bob, écoute, j'aurais préféré régler ce différend seul, mais puisque ce n'est pas possible, et parce que ce conflit implique des sujets qu'il n'est pas possible d'éviter, ma seule option afin d'obéir à ce que dit la Bible est d'appeler des gens de l'Église pour nous aider. Et j'aimerais que nous allions ensemble chercher ce secours. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai seul. » Et souvent, heureusement, ça encourage Bob à trouver une solution avant d'aller chercher quelqu'un d'autre. Mais s'il ne fait pas, la demande devra être faite de manière à ne pas ternir l'image de Bob. Si on va chercher quelqu'un pour venir nous aider, on ne va pas commencer à y vomir tout ce qu'on pense sur l'autre. C'est ça vouloir la réconciliation ? Non. Même en demandant l'aide à quelqu'un d'autre, on voudra toujours encore la réconciliation. On ne veut pas faire justice ou faire vengeance, vous comprenez ? C'est vraiment important. Et on va tout faire pour que la réconciliation puisse se faire de manière la plus optimale possible. On ne va rien donner pour le commérage ou la médisance. On va quelque part expliquer le moins possible lorsqu'on demande à quelqu'un de venir et que la personne soit présente ensuite avec l'autre partie pour exposer la situation. Et après la discussion avec les réconciliateurs, beaucoup de situations sont réglées par la grâce de Dieu. Ça, c'est encourageant. Et c'est pour ça qu'il nous a mis dans l'Église. Parfois, on n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais. Enfin, oui, on est mauvais. Mais c'est parce qu'on a besoin des autres. Si Dieu ne nous a mis pas tout seul dans l'Église, c'est qu'on a besoin des autres. Et parfois même, pour régler une situation avec quelqu'un, on a besoin de prendre quelqu'un d'autre dans l'Église. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Donc, c'est bon. Mais si le conflit persiste, après toutes les tentatives, même avec les réconciliateurs, il faut le dire à l'Église selon Matthieu 18, 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Alors, si devant l'Église, celui qui ne s'est pas repenti persiste dans son péché, il doit être traité comme un inconverti. Et c'est vraiment important. Et pourquoi ? Il y a trois buts précis de pourquoi on va traiter quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne veut pas se repentir. On va le traiter et le voir comme quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est inconverti. Pourquoi ? Premièrement, c'est pour ne pas déshonorer le Seigneur. Car une personne qui se dit chrétienne et qui persiste ouvertement dans le péché déshonore Dieu. Très clairement. Donc, en la traitant comme inconverti, on enlève ce déshonneur. On l'enlève. Elle n'est pas en Christ, donc elle ne déshonore pas Christ. Bien sûr qu'on désire qu'elle soit en Christ, qu'elle se repente. Donc ça, c'est un but. Deuxième but, c'est protéger les autres croyants, afin qu'ils ne s'égarent pas en suivant le mauvais exemple ou un comportement de division. En traitant l'autre personne ou en considérant l'autre personne comme inconvertie, eh bien, on montre à toute l'Église, ça, ce n'est pas ce que vit un chrétien. Donc ce n'est pas un exemple à suivre. Et troisième chose, et c'est un élément qui est vraiment au fond de notre cœur, c'est pour permettre à la personne rebelle de réaliser que c'est très grave ce qu'elle est en train de vivre. De ne pas se repentir de son péché. C'est extrêmement grave. Donc si elle entend dire qu'elle est inconvertie face aux yeux de l'Église, ça doit quand même faire réfléchir. Un inconverti n'a jamais été sauvé. Dans le but que cette personne se détourne de son péché et soit réconciliée avec Dieu. Jésus, devant la femme adultère prise en flagrant délit, lui dit de ne plus pécher. Et c'est également notre but lorsque nous reprenons quelqu'un, c'est qu'il ne pêche plus. Si nous suivons ces étapes, c'est simplement parce que la Bible nous l'enseigne. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire ça. Et souvent, je vous assure, on n'a pas envie. Parce que quand on reprend quelqu'un, souvent, vous avez déjà vu, quand on pointe du doigt, eh bien, il y en a en tout cas trois qui viennent chez moi. Quand on reprend quelqu'un, souvent, c'est notre propre péché qui est des fois mis en lumière. Donc on n'a pas envie de reprendre l'autre pour ne pas être repris. On est terrible, hein, on est tortueux. Mais Dieu peut nous changer, il y a de l'espoir. Parce qu'on peut aller auprès de Christ et celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous libérer. Moi je me réjouis de la prochaine prédication parce qu'on parlera du pardon de Dieu. On ira creuser profondément dans ce pardon et vous verrez, c'est glorieux. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse vivre ensemble. Et par la grâce de Dieu, avec son aide, nous cherchons toujours à vivre et nous encourageons à le faire dans la douceur et toujours dans la foi que la réconciliation est possible parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et comme 1 Corinthiens 6 nous y encourage, nous allons régler nos affaires en Église et ne pas chercher à aller devant les tribunaux civils. Pourquoi ? Parce que les tribunaux civils, c'est vrai, sont là pour régler des affaires. C'est juste, c'est Dieu qui les a mis en place. Mais les tribunaux civils ne vont jamais présenter l'Évangile. Jamais. Quand il y a un jugement qui est donné, c'est un jugement face à une faute. Il faut payer la faute, terminer. Il n'y a pas d'Évangile. Alors que si on le règle dans l'Église, on le règle avec l'Évangile. En conclusion, pour ce troisième E, édifié dans la douceur, donc basé sur ce texte, hein, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Ça, c'est des textes, essayez de les apprendre par cœur, de les avoir dans vos têtes, dans votre cœur. Comme ça, au moment où vous reprenez quelqu'un, tac, ça revient. Ok, reprendre quelqu'un, vous qui êtes spirituel, ok, je pense à l'Évangile, comment est-ce que je peux le vivre, reprenez avec douceur. Ok. Et pour terminer, j'aimerais lire l'engagement de l'artisan de paix pour ce point, d'édifier dans la douceur. Ils sont aussi sur les petits papiers verts, si jamais. Il y a peut-être 2-3 mots à compléter, mais voici ce qu'il est dit. Va et reprends ton frère. Au lieu de prétendre que les conflits n'existent pas, ou parler des autres dans leur dos, nous choisirons de passer sur les offenses mineures, ou, avec grâce, nous parlerons directement avec ceux qui ont commis des offenses trop sérieuses pour ne pas en tenir compte. Lorsqu'un conflit avec un autre chrétien ne peut pas être résolu en privé, nous dépendrons à d'autres membres du corps de Christ de nous aider à régler la situation d'une manière biblique. Prions. Père, c'est bien humblement que nous venons devant toi ce matin,
face à tout ce que nous avons entendu ce matin qui nous engage à entrer dans ce chemin de la réconciliation, dans cette vie d'artisan de paix. Et ce matin, de voir que nous sommes appelés à édifier dans la douceur, comme tu l'as fait. Ô Seigneur, nous te prions de comprendre cette notion du pardon que nous voulons amener à celui que nous reprenons, que nous désirons qu'il puisse comprendre en Christ et qu'il puisse progresser. Seigneur, si nous le désirons pour les autres, nous le désirons premièrement pour nous-mêmes, comme nous l'avons vu la dernière fois. Seigneur, aide-nous à enlever la poutre de notre œil. Tu vois combien parfois c'est difficile. Tu vois combien parfois nous avons l'impression qu'il n'y en a pas, alors qu'en fait elle est tellement grosse qu'on ne voit plus rien. Je te prie, Seigneur, vraiment de nous aider à voir dans nos vies ces péchés qui sont là, qui bloquent nos vies, qui bloquent nos relations les uns avec les autres, qui bloquent même des actions d'Église. Ô Seigneur, que nous puissions nous aider les uns les autres dans le but de grandir, dans le but de montrer au monde aussi que l'Évangile libère, que si nous pouvons parler les uns aux autres de nos péchés, ce n'est pas pour nous mettre dans une situation difficile, c'est pour que nous puissions en être délivrés et que nous puissions, Seigneur, manifester ton glorieux message de l'Évangile libérateur. Seigneur, nous te prions que dans cette journée, nous puissions déjà réfléchir à tout cela, que nous puissions le pratiquer, que les textes de ta parole puissent nous travailler et nous encourager, Seigneur, à nous réjouir que tu es celui qui nous reprend toujours avec douceur. Tu nous dis, Seigneur, viens à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu nous dis, viens à moi, toi qui as péché, je te pardonnerai, je te corrigerai pour que tu progresses, que tu grandisses. Seigneur, c'est une grâce de savoir que nous sommes dans ta main de Père. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.